Mardi 26 octobre 2010, bienvenue à l'aérospatiale en ma compagnie. Mon nom est Julie Gagné, je suis accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde, de Christelle Géard, qui est la chroniqueuse de cette semaine. Bonjour.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, Julie.
Bonjour. De quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'exposition que j'ai vue à la Chambre Blanche de Luis Armando Garcia, qui s'appelle, attention, Viento del Norte.
Donc ça, ce sera plus en fin d'émission. Au cours de l'émission, on discute avec Céline Marcotte de Folliculture pour l'événement Sortez vos morts qui aura lieu le 30 octobre à 20h au Studio P. On discute aussi avec Guillaume Adjuteur-Provost autour de l'exposition Changement d'identité, œuvre de fiction du collectif Relève Québec, qui est composé de Guillaume Adjuteur-Provost, d'Alexandre Janson et de Vicky Sabourin. Excusez la petite hésitation. Et comme à l'habitude, on est rejoint par notre chroniqueur en art audio, Éric Dorion. Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va super bien. D'ailleurs, cette semaine, il y a quelque chose de spécial qui va se passer.
Ben oui, parle-nous-en, c'est jeudi.
jeudi cette semaine, à la salle multi de la coopérative Méduse, ça va être le premier événement officiel du nouvel organisme Tartare. Tartare, qui est un organisme en production et en diffusion en art audio et en nouvelle musique. Organisme pour lequel je suis cofondateur avec Martin Michaud et je suis directeur artistique. Et donc, jeudi, ce sera à partir de 20h, il y aura Martin Tétrault, il y aura Philippe Aubert-Gauthier, il y aura le trio de Québec Vente de Feu, il y aura moi-même. Et la thématique de la soirée sera de souligner le 50e anniversaire de l'apparition de l'album Free Jazz d'Arnett Coleman.
Oh, d'où le refri, finalement.
Donc, le refri, voilà. Donc, il y aura... faut dire aux gens que ce sera une soirée qui sera haute en couleur, haute en son, mais et donc qui sera un peu de la réappropriation. Je parle souvent, hein, depuis que je suis chroniqueur aussi, de réappropriation et
ouais.
de pas de redites, mais du moins d'emprunt à certains mouvements. Et donc, cette soirée-là sera dédiée à l'album Free Jazz d'Arnett Coleman. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde pour encourager cette soirée de musique non formatée, ma chère.
Ben, je le crois bien, parce qu'il y a déjà des gens qui sont même pas liés au milieu des arts visuels qui m'ont parlé de leur présence à cet événement-là.
Génial.
Donc, votre publicité roule... à fond la caisse.
Voilà.
Et en attendant, aujourd'hui, tu nous parles d'un artiste.
Oui, ben écoutez, c'est un artiste, un incontournable, tant au point de vue musique de création, d'art audio, qu'au niveau de l'art visuel, Christian Marclay ou Christian Marclay. D'ailleurs, il y a eu une rétrospective de son travail l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne me trompe pas, à Montréal, à la Fondation DHC. Donc, c'est une rétrospective de son travail. Donc, faut dire que Christian Marclay utilise beaucoup la culture sonore, la pop, le rock, le punk dans son travail d'installation. Il travaille beaucoup avec les vinyles, travaille aussi avec la vidéo. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Christian Marclay, vous allez voir quelques vidéos d'art. Son travail est excellent. Entre autres, une de ses pièces qui était... sûrement que vous l'avez peut-être déjà vu, ceux qui s'intéressent à l'art actuel. C'était simplement Christian Marclay qui prend une guitare électrique avec un ampli, il met ça dans un pick-up, là, un gros pick-up américain, et puis il attache la guitare avec du duct tape. Et donc, il se promène pendant quelques heures avec la guitare qui frotte à l'arrière du pick-up, et puis il fait une promenade comme ça, et ça donne un son, puis c'est toute une métaphore sur l'usure,
sur le temps,
sur... Bon, puis justement, c'est un pick-up américain, un vieux pick-up, donc il y a tout un travail là-dessus. Ses installations vidéo aussi sont superbes, donc, ben, c'est ça, tapez Christian Marclay. L'album que j'ai choisi... ça, je l'ai écouté, je l'ai utilisé à l'époque quand je faisais des émissions de radio, je l'ai surutilisé cet album-là, donc on va l'utiliser encore une fois. C'est l'album « More Encore » ou « More Encores ».
Ben oui, ça sonne super en anglais.
« More Encores ». C'est un album phare, tant pour l'artiste que pour la table tournante. Donc le travail de Christian Marclay est uniquement... sur le son et uniquement à partir de tables tournantes de vinyle. Il bricole lui-même les vinyles. C'était un des premiers là, à prendre un vinyle, à le couper en 6-8 morceaux, à le recoller et puis donc à mélanger des albums comme ça. Et l'album Moins Encore, donc si je vous dis les titres un peu, première pièce s'appelle Johann Strauss, deuxième John Zorn, troisième Martin Denis, quatrième Frédéric Chopin, machin. Et donc c'est en fait chaque pièce, il l'utilise comme matériel, comme source, uniquement des disques de ces artistes-là. Donc, soit qu'il les découpe et il les recolle, soit qu'il fait un travail de mixage, et c'est uniquement à partir de tables tournantes. Christian Marclay a sorti cet album-là en 88. Au début, c'était un album vinyle qui est sorti sur No Man's Land, une étiquette qui n'existe plus. Ça a été... comment qu'on va dire en français? Bon, en tout cas, c'était ressorti sur étiquette RER. Ça, c'est une étiquette incontournable pour ce qui est de la musique actuelle des années 80-90. À la tête de cette étiquette, c'est monsieur Chris Cutler. Donc aujourd'hui, on va entendre les pièces Johann Strauss. Johann Strauss, je pense que c'est elle que j'ai utilisée le plus souvent.
Ah ouais, donc ouais. C'est vraiment ta préférée.
Ben, oui, puis c'est parce qu'en plus, c'est une espèce de mise en abîme est-ce le Danube bleu? Non, Johann Strauss. Oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est une mise en abîme. Donc, il retravaille. Je pense qu'il prend comme trois fois le Danube bleu et puis il rescratche dessus. Viendra par la suite John Zorn, l'incontournable. Faut dire que Christian Marclay est vraiment associé à la scène new-yorkaise de création. Il a travaillé avec Sonic Youth, beaucoup avec Sonic Youth, en fait, avec Martin Tétrault également. De Montréal. Donc, on entendra John Zorn. Il a travaillé beaucoup aussi avec John Zorn en passant. Par la suite, on entendra Maria Callas. Et ça, c'est une pièce d'anthologie.
Quand même
aussi.
Assez variée. Hein?
Oui, et la dernière pièce sera Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Donc, une espèce de mash-up, cut-up du couple célèbre. Voilà.
Voilà. Ben, merci, Eric.
Ça fait plaisir.
Ça pique notre curiosité. Voilà, on va s'en mettre en oreille tout de suite.
Allez. Allez-y.
On écoute Johann Strauss de Christian Marclay sur les ondes de CKRL 89.1.
Thank you.
Alors, on vient d'entendre Johann Strauss, c'est tiré de l'album More Encores de Christian Markley. C'était une suggestion de notre chroniqueur Éric Dorion. Vous êtes toujours à l'aérospatiale. Et vous savez, en fin de semaine, c'est l'Halloween. Il y a plusieurs événements, plusieurs parties, mais dans le milieu des arts visuels, il y a un événement qui attire particulièrement notre attention. C'est une soirée multidisciplinaire qui s'appelle Sortez vos morts. C'est une présentation, en fait, de folie culture avec de la poésie, de la danse, de la musique, etc., etc. Et on rencontre Céline Marcotte pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
L'événement arrive à grands pas. Moi, je...
Oui. Oui, ça arrive samedi soir. Il faut dire que on a décidé de travailler sur la thématique Sortez vos morts. On voulait parler des tabous, des morts qu'on a, dont on veut pas parler, qu'on veut pas amener sur la place publique. Puis on voulait travailler vraiment là-dessus. Puis on s'est dit pourquoi pas le présenter dans le cadre de l'Halloween.
Ben oui, parce que l'Halloween, à la base, c'était la fête des morts.
Oui, voilà. Donc, c'est ça. Nous, on avait fait un appel aux artistes pour nous présenter des propositions, faire un appel de propositions pour la soirée. Et on a fait un choix parmi les propositions qu'on a reçues, qu'on trouvait plus pertinentes pour la soirée.
Parce que il y a toutes sortes de choses, hein. Ça va vraiment de l'humour, de l'ironie, à la poésie, à des performances peut-être un peu plus intimistes.
Oui. Il va y avoir 8 propositions. Qui regroupe en tout 20 artistes quand même. Il va pas mal. Oui. Il va avoir du monde au poste. Puis c'est ça. Puis il va avoir, comme tu disais tantôt, il y a de la poésie, des performances, de la création sonore. Il y a de la danse aussi. Il va avoir une projection d'une vidéo aussi d'un artiste italien.
Oui, le mai 42.
Oui, voilà, qu'on a décidé de programmer. Lui, il sera pas là, mais on va projeter son vidéo.
Puis, est-ce que c'est une soirée qui est appelée à être interactive avec le public ou c'est vraiment plus une formule spectacle?
Bien, c'est une soirée multidisciplinaire. Donc, il va y avoir un peu, comme je disais, un peu de tout. Il va y avoir... c'est pas vraiment interactif. C'est vraiment une soirée de spectacle. Puis, de spectacle. Puis, il va y avoir de la danse, des projections vidéo. Donc, la création sonore. C'est un peu... il va y avoir plusieurs scènes aussi.
Comme une
donc,
sorte de cabaret, là, où il y a toutes sortes de
ouais,
choses.
Oui, un peu, peut-être, mais pas du cabaret. Des fois, ça va être plus sérieux. Des fois, plus ironique, plus drôle. Voilà.
Et à travers ça, vous nous invitez à peut-être réfléchir sur nous-mêmes aussi, puis à exorciser nos propres petites morts, si vous parliez, ou nos démons. Dans
c'est
un
ça,
sens.
De venir les sortir lors de cette soirée-là.
Parce qu'on ne parle pas uniquement de mort physique. Là. Quand on pense à la mort, on pense toujours à la mort d'un être cher, mais il y en a toutes sortes d'autres. Je pense que vous essayez de ratisser quand même large en ce sens-là
c'est
aussi.
C'est ça, nous, on voulait plus travailler au deuxième degré, travailler sur les petites morts intérieures, nos déceptions, ce qu'on n'a pas... ce qu'on cache finalement aussi, ce dont on n'est pas très fier non plus, d'essayer de sortir ça. Donc, il y a des artistes qui vont travailler vraiment de cette façon-là, de façon très personnelle, sur leur histoire personnelle.
Comme quoi. Anna Feldhaus, par exemple.
Voilà, Anna Feldhaus, qui, elle, est allemande, qui porte finalement l'histoire de l'Allemagne qui la concerne pas. Mais elle est obligée de apporter ça parce qu'elle est allemande, puis historiquement. Donc, elle va essayer de s'extriper, de parler de cette... de sortir cette mort qu'elle supporte en étant allemande. Il y a Denis Gaudreau puis Karine Turcotte qui vont faire une espèce de rituel expiatoire de chacun leur histoire mutuelle avec des tableaux vivants.
C'est intriguant, ça, quand même. Hein?
Oui, puis donc, je pense que ça va être une soirée super intéressante. Puis Catherine Cédillo qui va danser, qui fait la mariée. Sa thématique, c'est des rêves indigestes. Puis elle nous présente une danse, la mariée, qui est super. C'est super beau, son travail. C'est vraiment... C'est très poétique. C'est un peu à la façon du buteau, d'une danse buteau.
Puis il n'y a pas de musique hein, pour ça. Je pense qu'il va y avoir uniquement les projections de lumière de Justine Ricard, si je ne me trompe
voilà,
pas.
Oui.
Mais il y a une question que je me pose. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intriguée là, quand j'ai regardé la programmation. En fait, j'ai vu l'ADVA. On connaît l'ADSA, l'action terroriste socialement acceptable, mais l'ADVA, c'est quoi exactement?
l'action terroriste virilement acceptable.
Oh, OK.
Donc, on a aussi des gars, hein? Des gars qui abordent la thématique du gars. Fait que, qui abordent certains mythes de façon dérisoire un peu.
Oui, parce que là, ils vont nous parler de la vie et l'œuvre de Che Guevara, héros viril, mais là, ils vont complètement reformuler toute sa vie, toute son œuvre,
voilà,
aussi,
ouais,
tout
ils
son
vont,
sens.
Ils vont détourner le mythe, ils vont le mettre à mal, mais ils font ça de façon satirique. Je pense que ça va déplacer de l'air, j'ai l'impression.
Puis, il y a le Front mortel de poésie aussi, qui va nous présenter de la poésie. Bon, on est souvent, actuellement, dans le milieu, peut-être, littéraire, on cherche des nouvelles manières de présenter la poésie, plutôt qu'un poète qui déclame ses textes devant un public seul, avec le micro. Dans leur cas, je pense que la mise en scène va être assez dynamique.
Oui, ils vont faire de la poésie performance. Ils vont utiliser aussi la projection, mais c'est vraiment de la performance qu'ils font avec des textes. Ouais.
OK, donc des textes de création. Plus dans la performance.
Oui, puis l'ADVA, c'est Front mortel de poésie, donc...
C'est ça, hein, il y a vraiment assez... Bon, folie culture, ça dit, il y a pas mal de folie dans cet événement-là. Aussi, d'ailleurs, l'événement, vous le présentez comme une sorte de banc d'essai pour... qui se situe dans les marges de la représentation et du symbolique. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement?
Bien, c'est ce qu'on a demandé aux artistes. Donc, c'est comme... c'est pas juste de la poésie, c'est aussi un banc d'essai, donc, pour des poètes de venir faire de la performance. C'est le travail, finalement, qu'on a demandé aux artistes de faire, d'essayer de sortir un peu du travail habituel qu'ils faisaient.
De d'éclater leurs propres frontières, finalement.
Oui, voilà.
Peut-être pour passer par-dessus leur petite mort personnelle, dans une certaine mesure.
On espère que ça va être libérateur pour eux autres.
Bien, Céline Marcotte, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, c'est le samedi 30 octobre à 20h, c'est au Studio P. Le prix est vraiment dérisoire, là, c'est 7$. À la limite, c'est presque symbolique. Donc, c'est la sortie de la... Voyons, pardon, c'est l'événement Sortez vos morts.
Voilà, bienvenue à tous. Si les gens veulent venir sortir leurs morts déguisés, bienvenue.
Pour ajouter un peu de folie à tout ça.
Voilà.
Merci beaucoup, Céline Marcotte. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute toujours sous la suggestion de... j'ai oublié son nom. Éric Dorion. Comment puis-je oublier son nom? On écoute John Cage sur les ondes de CKRL 89.1. Thank you. Vous aurez peut-être reconnu le son de John Cage. Cela serait fort peu surprenant étant donné que c'est le titre de la pièce et que c'est tiré de l'album More Encores de Christian Markley, qui travaille à partir des vinyles d'artistes connus, d'artistes de toutes sortes d'époques. Il les brise, il les repatche, il fait de l'échantillonnage, etc. Donc chacune de ses pièces est toujours selon le nom, en fait, de l'artiste sur lequel il a travaillé. Vous êtes toujours à l'aérospatiale. C'est le temps de faire un petit détour par le Musée national des beaux-arts du Québec. On a rencontré il y a 2 semaines Daniel Drouin qui nous présentait l'exposition du Gréco à Dali, les grands maîtres espagnols de la collection Pérez Simón. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y faire un petit retour sans passer une heure encore sur le sujet, mais d'en parler parce que quand même les attentes étaient assez grosses du point de vue de cette exposition-là. 2 très grands noms de l'histoire de l'art. Il faut dire, bon, le titre est peut-être un petit peu tape à l'œil, du Gréco à Dali, donc on y va vraiment avec des gens très, très connus, considérant aussi qu'il y a une seule toile, finalement, du Gréco, une toile quand même qui vaut la peine de voir. Mais, grosso modo, il y a 72 œuvres qui sont présentées en 2 salles, qui a fait un panorama quand même très intéressant de 500 ans d'histoire. Le tout vient d'une partie de la collection de Pérez Simón qui nous avait aussi offert l'exposition de Crana à Monet. Qui sait, peut-être y aura-t-il une autre exposition à partir de sa collection. Ça pourrait être intéressant. Mais ce qui est bien à travers cette exposition-là, c'est vraiment de faire la rencontre de l'art espagnol. Ici au Québec, au Canada, peut-être en Amérique, on connaît l'art français, on connaît l'art italien, l'art anglais un peu, l'art flamand, mais on connaît très peu l'art espagnol. Et pourtant, il y a de très grands noms qui sont issus de son histoire de l'art, qu'on pense à Gréco, Velázquez, Ribera, Picasso, Dalí, Miró, etc. Mais on n'en connaît pas nécessairement plus. Et pour nous guider, les commissaires de l'exposition ont décidé de séparer l'exposition, non pas de manière chronologique, mais de manière thématique. C'est une pratique qui a cours, en fait, au musée depuis quelques années. Donc, première des thématiques, c'est le regard tourné vers Dieu. On sait que les Espagnols étaient un peuple assez croyant, l'Inquisition, etc. Et c'est vraiment, à mon avis, la section qui regroupe les œuvres les plus intéressantes. Il y a une énorme représentativité de la période baroque. Donc, au XVIIe siècle, on se situe en pleine guerre de religion, de contre-réforme catholique, et les Espagnols ont su vraiment créer des œuvres à très forte charge émotive. Et notamment dans l'exposition, on peut penser à Giuseppe de Ribera, avec son Saint Jérôme en clair-obscur, qui est très, très, très bouleversant, très typique d'une certaine forme de caravagisme. C'est aussi dans cette section-là qu'on va trouver le seul et unique tableau du Gréco, sa tête de Christ qui est miniature, qui est, ma foi, vraiment très, très proche de l'esquisse, qui est très émouvante. Donc, on oublie l'aspect léché, on garde la déformation, on garde la charge émotive. Deuxième section de l'exposition, c'est portraits d'un siècle à l'autre. Comme ça dit, c'est comme une galerie de portraits. Le portrait, en fait, qui témoigne à la fois d'une influence italienne et flamande, donc influence flamande par le traitement hyper réaliste des tissus et des métaux comme par exemple une cotte de maille ou bon ce type de métaux là, c'est pas comme s'il y avait des lingots d'or. Bon,
sinon parce qu'il y a juste des petites touches de peinture, mettons une petite touche de peinture blanche et puis là ça donne toute la dimension
tout
en fait du métal,
l'éclat
comme,
du métal.
Wow.
Ouais, c'est vraiment vraiment très 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 impressionnant en fait du point de vue des portraits, notamment il y en a un très beau de Goya, la Doña Maria Teresa de Vallabriga y Rosas, pardonnez mon espagnol, un tableau avec une très belle lumière, un regard intense et énigmatique, un sourire réservé aussi. Aussi, un autre très, très beau portrait qui est l'affiche de l'exposition, c'est un portrait de femme de Julio Romero de Torres du début du 20e siècle, une femme vraiment espagnole avec un regard profond et envoûtant, qui témoigne vraiment de la grande beauté et de la fascination qu'elles peuvent exercer ces femmes-là.
C'est une ode à la féminité aussi.
Ah, complètement, complètement. C'est vraiment, il est vraiment envoûtant. Je peux pas dire plus. On reste devant puis on est complètement fasciné. Une autre section de l'exposition, c'est peut-être celle que moi j'ai le moins appréciée où j'ai vu peut-être un peu moins de cohésion. C'est fêtes royales et fêtes populaires où là vraiment on a cherché à mettre de l'avant l'esprit de fête des Espagnols. Quand même, il y a des beaux tableaux malgré tout, même si moi j'ai un peu moins apprécié, notamment un tableau de Hermen Anglada Camaresa, ça s'appelle Feria de Valence, ça date de 1907. C'est un très très beau tableau avec une facture vraiment fauvis, avec des teintes de Klimt, des couleurs qui éclatent en une multitude de couleurs encore, des belles oppositions de tons chauds et froids, vraiment une facette, une palette qui est très très riche.
Mais je me disais aussi que peut-être le choix en fait de ces tableaux dans l'exposition, c'était de dire que peut-être les peintres avaient des commandes et puis du coup ça resituait ça dans le dans toute l'histoire en fait de la peinture espagnole, parce qu'il y avait beaucoup de commandes justement. Et puis les scènes de guerre ou les scènes royales, c'était un peu aussi pour servir le pouvoir en place.
Ben oui, effectivement, comme c'est souvent le cas aussi à travers des portraits où on va vraiment chercher à mettre de l'avant les personnalités de manière le plus fidèle possible. Une autre section que j'ai bien aimée, moi, c'est peindre la lumière, l'eau et le vent, qui met vraiment de l'avant l'œuvre de Joaquín Sorolla, un artiste qui est absolument méconnu ici, mais qui était vraiment très populaire de son vivant. Il s'est intéressé à une peinture sociale. Il a représenté des pêcheurs, des paysans, des enfants qui se baignent dans une facture vraiment post-impressionniste, donc une étude de la lumière, des couleurs. C'est vraiment très touchant, des belles couleurs pures, des complexités d'effets de lumière sur la peau, des vêtements, sur l'eau. C'est vraiment touchant et fascinant. Et là, on termine avec la dernière thématique, et quand même non la moindre, les grands maîtres de la modernité, qui fait une très grande place aux deux artistes espagnols les plus importants, les plus connus du 20e siècle, c'est-à-dire Dalí et Picasso. Sans nécessairement posséder d'œuvres majeures de Picasso, la collection Pérez Simón présente toutes les grandes époques de l'artiste, mais c'est vraiment Dalí qui est à l'honneur. Tout d'abord, on est accueilli dans le grand hall par la Vénus de Milo au tiroir, donc une sculpture de bronze qui est une réplique de l'œuvre antique, mais avec des tiroirs dans une perspective très, très surréaliste. Sinon, une œuvre très forte de Dalí que j'ai vraiment appréciée, le Christ de Gala, donc deux tableaux qui sont presque pareils. Il y en a un qui est fait pour un œil gauche, l'autre qui est fait pour l'œil droit. C'est un Christ en croix. Et là, au centre, deux miroirs convexes qui nous permettent, quand on s'approche, de voir en 3D. Mm. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que Dalí voyait vraiment une expérience quasiment mystique de la Trinité. Donc l'œil droit, c'est Dieu, l'œil gauche, c'est Jésus, et le cerveau est comme la jonction des deux, c'est-à-dire le cerveau.
Oui, mais il y a tout, ce que j'ai trouvé rigolo aussi, c'est qu'il y a tout un cérémonial pour accéder, tu sais, au centre vraiment, pour voir le tableau complet. Puis là, quand j'y suis allée, moi on faisait la queue en fait pour aller voir en fait le tableau central au fond, puis ils étaient il faut prendre du temps pour y aller, et puis
oui, les gardiens en fait nous montrent la manière de s'approcher pour avoir cette
vrai rituel.
Révélation là, effectivement ça fit, j'ai pas d'autres mots plus français que ça fit. Donc si vous êtes intéressé, c'est du Greco à Dalí, c'est présenté jusqu'au 9 janvier au Musée national des Beaux-Arts du Québec, donc une exposition blockbusters très très importante. De notre côté, on s'en va en pub et on se retrouve de l'autre côté où on discute avec Guillaume Adjutor-Provost autour de l'exposition qui est présentée à vue.